Et voilà le journal, il débute. Bonjour Catherine Dutu.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'urgence d'une politique d'asile commune aux 27. L'incendie du camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos l'a rappelé il y a 2 semaines et Bruxelles présente aujourd'hui une épineuse réforme, solidarité obligatoire entre tous les États européens et la fin du règlement de Dublin qui voit une demande d'asile être forcément traitée par le pays d'entrée d'un migrant.
À la une en France, la durée du congé de paternité qui va doubler est passée à 28 jours. L'Élysée veut rejoindre les pays européens en pointe en la matière.
Et c'est une excellente nouvelle pour Familles de France, difficile à mettre en place, répondent les petites entreprises. Plus de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures en France. Le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de Lyon.
Défendre la liberté d'expression est l'affaire de tous. Et parce qu'elle est attaquée, on l'a vu encore au procès des attentats de janvier 2015, près de 90 médias, dont Radio France, lancent un appel aux citoyens.
« Nous avons besoin de vous », écrivent-ils alors que Charlie Hebdo est de nouveau attaqué par Al-Qaïda.
Et la question du jour, eh bien dans une dizaine de minutes, Catherine, un Tour de France 102 pages, est-ce possible? Nous poserons la question à David Opojinski, reporter au service des sports du Parisien.
Alors que 88 migrants ont été secourus hier alors qu'ils risquaient de se noyer en tentant de traverser la Manche, la Commission européenne présente aujourd'hui un nouveau pacte sur l'asile, un sujet explosif entre les 27 car depuis la crise de 2015, les pays de première entrée, Grèce, Italie, Espagne, se retrouvent bien seuls à gérer les demandes d'asile, face notamment aux pays d'Europe de l'Est réfractaires à tout accueil d'étrangers. La Commission promet aujourd'hui une vaste réforme mais un compromis s'annonce difficile à trouver. Les précisions à Bruxelles d'Angélique Bouin.
La réforme prévoit un mécanisme de solidarité obligatoire. Mais peut-on obliger la Hongrie, par exemple, à accueillir des réfugiés alors que ce n'est pas une destination privilégiée, loin de là, par ceux qui frappent à la porte de l'Europe? Pour le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, cette solidarité peut tout à fait se manifester autrement, par un soutien financier ou logistique.
Les modalités dont on avait discuté ces dernières années, ce qu'on appelait parfois des quotas obligatoires, ne fonctionnent pas objectivement. Et donc il faut une solidarité obligatoire et des modalités plus variées. On peut contribuer à la solidarité européenne en accueillant directement des réfugiés, ou en organisant des opérations de retour, ou en renforçant la protection des frontières communes. Il peut y avoir différentes options. Et donc ça serait nouveau et je pense que c'est de nature à débloquer la situation.
Aujourd'hui, seuls 30% des décisions de retour sont exécutées, souvent dans des délais très longs. La Commission veut donc reconduire plus rapidement ceux qui ne sont pas éligibles à l'asile, mais aussi mieux lutter contre les passeurs ou encore augmenter l'aide aux pays de départ. Il faut tout remettre à plat, estime Fabienne Keller, rapporteure sur la révision du règlement de Dublin au Parlement, pour éviter par exemple qu'un demandeur d'asile, dont toute la famille est en Suède, n'attende des mois un feu vert dans un camp grec. L'eurodéputé centriste plaide également pour la création de centres d'accueil gérés et financés directement par l'Union européenne.
Et avant même la présentation du projet de la Commission sur les réfugiés, le chancelier autrichien Sébastien Kurz, conservateur, estime ce matin dans un entretien à l'agence France Presse que la répartition des demandeurs d'asile en Europe ne marchera pas. L'incendie du camp de Moria en Grèce ne l'a pas fait changer d'avis. Son pays n'accueillera aucun des 12 700 hommes, femmes et enfants qui dormaient encore à la rue il y a quelques jours et qui se retrouvent aujourd'hui sous des tentes encore surpeuplées, se lavant dans la mer. Sébastien Kurz, soutenu malgré tout par ses alliés verts au gouvernement à Vienne, reste droit dans ses bottes, la correspondance en Autriche d'Isorias.
Le chancelier conservateur Sébastien Kurz l'a répété, l'Autriche n'accueillera pas de migrants du camp de Moria, pas même des mineurs. Il s'en explique dans une vidéo postée sur son compte Facebook.
Ces 5 dernières années, l'Autriche a accueilli 200 000 personnes et nous faisons déjà face à de grands défis pour les intégrer. Nous avons 30 000 réfugiés au chômage, cela montre qu'accueillir toujours plus n'est pas la bonne approche.
Plutôt que l'accueil, le chancelier privilégie l'apport du une aide humanitaire sur place, une position ferme et surtout stratégique selon le politologue Oliver Gruber.
C'est une position qu'il a développée dès 2015 et qui lui a permis de recueillir le soutien de personnes qui votaient auparavant pour l'extrême droite. Cela est devenu pour lui une formule gagnante pour les élections, mais aussi sa marque de fabrique.
Mais Sébastien Kurz est très critiqué ces derniers jours, y compris par les Verts, ses partenaires de coalition. Ces derniers, minoritaires au gouvernement, ont ont dû accepter la décision du chancelier, mais continuent de la dénoncer, à l'instar de Faïka El-Nagashi, députée écologiste.
C'est notre devoir d'aider, et l'Autriche en a les moyens. En témoigne la démarche de certaines villes qui ont évalué leurs capacités et disent « nous pouvons accueillir des réfugiés ». Donc, tant que nous serons au gouvernement, nous essaierons de changer la position de notre partenaire.
Certains écologistes participeront d'ailleurs à une manifestation le 3 octobre prochain pour l'accueil de migrants du camp de Moria.
Isorias à Vienne pour France Culture.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutus. Une annonce que les militants et militantes de l'égalité femmes-hommes attendaient depuis des années, l'allongement du congé paternité.
À partir de juillet prochain, il sera doublé, passant de 14 à 28 jours, financé par la Sécurité sociale. Cette mesure annoncée hier soir par l'Élysée sera détaillée aujourd'hui par Emmanuel Macron en déplacement dans un centre de la PMI, de la protection maternelle et infantile, à Longjumeau, dans l'Essonne. Si les modalités seront bientôt discutées avec les partenaires sociaux, Chantal Huette, qui préside la Fédération Famille de France, se félicite déjà de cette annonce.
Remettre le rôle du papa dans ce nouveau mode de garde pour aider la maman est tout à fait justifié et effectivement nous permet de dire qu'on arrive enfin à une égalité homme-femme. Et ça, c'est très important. Puisque on sait très bien que les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant sont essentiels à sa santé psychique et physique.
Cet allongement du congé paternité est d'ailleurs préconisé par la commission des 1000 premiers jours de vie, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Mais selon Laurent Munereau, à la tête de l'Union des entreprises de proximité, cela va compliquer la vie économique.
Quand on est dans une petite entreprise où on a 3 personnes, eh bien, ça fait 30% des effectifs qui sont absents de l'entreprise pendant 28 jours parce qu'ils ont eu un enfant. Alors, bien sûr qu'on comprend le côté social, mais il y a un côté économique pour l'entreprise qui va être difficile à gérer. C'est pour ça qu'on a demandé à ce qu'il n'y ait pas forcément d'obligation de prendre son congé parental, ce qui est déjà le cas, puisqu'il y a seulement 70% des pères qui actuellement prennent leur congé parental. Et puis, qu'il y ait une possibilité de fractionnement des jours de paternité pour que ça pèse moins sur la gestion humaine de l'entreprise.
Laurent Munereau, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. C'était il y a un an tout juste, Christine Renon se suicidait sur son lieu de travail. Cette directrice d'une école maternelle de Pantin en Seine-Saint-Denis laissait derrière elle une lettre dans laquelle elle dénonçait la fatigue, le stress et la pression de sa hiérarchie. Les choses ont empiré, expliquent aujourd'hui ses collègues, alors que le ministère de l'Éducation nationale a lancé une concertation pour améliorer le statut des directeurs et directrices d'école. On y revient dans le journal de 7h30. Le plan blanc a été déclenché hier dans les hôpitaux de Lyon à cause du rebond de l'épidémie de Covid-19. Le dispositif permet d'installer des cellules de crise dans tous les groupements hospitaliers, d'ouvrir des unités dédiées de médecine pour accueillir un nombre croissant de patients Covid. Il permet également d'étendre les capacités d'accueil en réanimation tout en différant certaines prises en charge non urgentes. Dans tout le territoire, plus de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures. Près de 2 millions enregistrés la semaine dernière dans le monde. C'est le plus grand nombre de cas signalés en une seule semaine depuis le début de la pandémie, estime l'OMS. La pandémie au cœur cette semaine de l'Assemblée générale de l'ONU, mais les tensions entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine de Xi Jinping ont occupé la scène diplomatique hier avec des messages vidéo enregistrés, pandémie oblige, en levée de rideau de cette 75e Assemblée générale de l'ONU à New York, au point que le secrétaire général des Nations Unies a mis en garde contre une nouvelle guerre froide, Christian Chéneau.
Il y a un an, dans cette même enceinte de l'ONU, Donald Trump avait traité les Chinois de voleurs. Cette fois-ci, il accuse Pékin d'avoir délibérément propagé l'épidémie du Covid-19 dans le monde entier. Les Nations Unies doivent tenir la Chine responsable de ses actes, a martelé le président américain qui a mis en valeur sa gestion de la crise sanitaire alors que les États-Unis ont franchi la barre des 200 000 morts. Piqué au vif, les Chinois ont répliqué, c'est Donald Trump qui propage un virus, mais politique celui-là. Le numéro 1 chinois, Xi Jinping, dans un discours préenregistré, a voulu ensuite recadrer les choses. Sans citer les États-Unis, il a mis en garde contre le piège d'un choc des civilisations appelant à ne pas politiser la lutte contre le coronavirus. La Chine n'a pas l'intention d'entrer dans une nouvelle guerre froide, a souligné le président chinois, comme si, face aux saillies du président américain en pleine campagne électorale, Pékin avait choisi l'apaisement et l'esquive, sachant que les deux superpuissances mondiales n'avaient d'autre choix que de se parler.
Et Donald Trump présentera dès samedi après-midi, par ailleurs, une candidate pour succéder à la Cour suprême, à la progressiste Ruth Bader Ginsburg. Les démocrates ne décolèrent pas, ils veulent que cette nomination se déroule après la présidentielle du 3 novembre prochain. Pour défendre la liberté d'expression, une lettre ouverte est publiée ce matin par l'ensemble de la presse écrite des télévisions et des radios, dont Radio France. À l'initiative de Rice, le patron de Charlie Hebdo, cette lettre ouverte rappelle notamment que les délits de blasphème n'existe pas en France, que la liberté d'expression est un bien commun qu'il faut défendre et protéger, d'autant plus dans un contexte où Charlie Hebdo a reçu de nouvelles menaces de la part d'Al-Qaïda en plein procès sur les attentats de janvier 2015. Les médias, face aux menaces et aux pressions, lancent un véritable cri d'alerte, Benoît Grossin.
Le texte, paraphé du hashtag « Défendons la liberté », s'adresse directement aux Français pour les alerter sur leur propre liberté d'expression face aux menaces de mort sur les réseaux sociaux. Et alors que des médias sont ouvertement désignés comme cibles par des organisations terroristes, que des États exercent des pressions sur des journalistes français parce qu'auteurs d'articles critiques, les signataires disent redouter que la crainte légitime de la mort n'étende son emprise et n'étouffe inexorablement les derniers esprits libres. Il rappelle qu'en France, le délit de blasphème n'existe pas. Avant de conclure, nous avons besoin de votre mobilisation. Cette initiative très solennelle pour l'universitaire Alexis Lévrier, spécialiste de l'histoire du journalisme, est à la mesure de la gravité de l'enjeu.
La presse est menacée par certains États qui effectivement empêchent le blasphème, empêchent la liberté d'expression sur ces questions religieuses. Mais elle est menacée aussi de l'intérieur. Et je crois que c'est pour ça que le texte, dans la forme, s'adresse aux Français, invite par un hashtag finalement à rejoindre cette initiative. C'est une façon d'appeler à une espèce de vigilance collective. Il y a aujourd'hui des appels à la haine, des groupes organisés sur Twitter, sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, le danger qui pèse sur la liberté d'expression, c'est au niveau non pas des États, en tout cas dans un pays comme la France, au niveau des citoyens, par le biais des réseaux sociaux notamment.
Et d'autres menaces pèsent aujourd'hui en France sur la liberté de la presse. L'extension du secret des affaires pour la protection des sources après la convocation l'an dernier de plusieurs journalistes par les services de la DGSI et le renforcement maintenant du contrôle des manifestations dans l'espace public. La nouvelle obligation d'accréditation a été vivement contestée dans une lettre publiée mardi par les sociétés de journalistes d'une quarantaine de rédactions qui dénoncent une atteinte à la liberté d'informer.
Ensemble, défendons la liberté, lettre ouverte à nos concitoyens. C'est à retrouver en une sur franceculture.fr. Le temps de ce mercredi 23 septembre, partagé en traverse et éclairci, les températures seront comprises au meilleur de la journée, entre 16 et 28 degrés, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, on va évoquer le Tour de France. Un Tour de France sans dopage, est-ce possible? 7h12 sur France Culture.